voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, dans cette série Lettres d'amour, voici celle que George Sand adressait à Alfred de Musset. Aurore Dupin, dit George Sand, bouscula les conventions sociales de son époque par ses passions successives, dont la plus célèbre demeure celle qu'elle éprouva pour Alfred de Musset. Et si George Sand ne fut jamais membre d'une académie, Musset, en revanche, fut élu à l'Académie française en 1852, 5 ans avant sa mort, mais sa carrière était derrière lui et son inspiration éteinte. Lorsqu'il avait remporté son premier grand succès, il avait 23 ans. Il venait de publier « Rolla », un drame d'amour qui raconte l'histoire d'un jeune homme, cœur noble mais naïf, qui, devenu le plus grand débauché de Paris, sera sauvé à la dernière minute par la pureté et l'amour de Marion. La même année que Rolla, en 1833, Musset publiera aussi « Les caprices de Marianne ». Et surtout, cette année-là, il rencontre George Sand et tous deux s'enflamment de passion. Après un séjour idyllique à Fontainebleau, les deux amants partent pour l'Italie, mais à Venise, en février 1834, Musset tombe gravement malade, George le soigne comme une mère et elle le trompe avec le médecin Pagello. Musset est au désespoir, leur passion s'effrite, ce qui n'empêche pas qu'ils continuent à s'écrire. George Sand reste attentive à la santé de son ancien amant et lui conserve une tendresse certaine, vous allez en juger. Alors qu'il se repose à Genève, elle répond à l'une de ses lettres.
« J'étais au désespoir. Enfin, j'ai reçu ta lettre de Genève. Oh, que je t'en remercie, mon enfant, qu'elle est bonne et qu'elle m'a fait du bien. Est-ce bien vrai que tu n'es pas malade, que tu es fort, que tu ne souffres pas? Je crains toujours que, par affection, tu ne m'exagères cette bonne santé. Oh, que Dieu te la donne et te la conserve, mon cher petit. Cela est aussi nécessaire à ma vie désormais que ton amitié. Sans l'une ou sans l'autre, je ne puis pas espérer un seul beau jour pour moi. Ne crois pas, Alfred, que je puisse être heureuse avec la pensée d'avoir perdu ton cœur. Que j'ai été ta maîtresse ou ta mère, peu importe. Que je t'ai inspiré de l'amour ou de l'amitié, que j'ai été heureuse ou malheureuse avec toi, tout cela ne change rien à l'état de mon âme à présent. Je sais que je t'aime, et c'est tout. Hélas, non, ce n'était pas notre faute, nous suivions notre destinée, et nos caractères plus âpres, plus violents que ceux des autres nous empêchaient d'accepter la vie des amants ordinaires. Mais nous sommes nés pour nous connaître et pour nous aimer, sois-en sûr. Sans ta jeunesse et la faiblesse que tes larmes m'ont causée, un matin nous serions restés frères et sœurs. Nous savions que cela nous convenait. Nous nous étions prédit les maux qui nous sont arrivés. Eh bien, qu'importe, après tout, nous avons passé par un rude sentier, mais nous sommes arrivés à la hauteur où nous devions nous reposer ensemble. Nous avons été amants, nous nous connaissons jusqu'au fond de l'âme, tant mieux. Quelle découverte avons-nous faite mutuellement qui puisse nous dégoûter l'un de l'autre? Oh, malheur à nous, si nous nous étions séparés dans un jour de colère, sans nous comprendre, sans nous expliquer, c'est alors qu'une pensée odieuse eût empoisonné notre vie entière. C'est alors que nous n'aurions jamais cru à rien. Mais aurions-nous pu nous séparer ainsi? Ne l'avons-nous pas tenté en vain, plusieurs fois? Nos cœurs, enflammés d'orgueil et de ressentiment, ne se brisaient-ils pas de douleur et de regret chaque fois que nous nous trouvions seuls? Non, cela ne pouvait pas être. Nous devions, en renonçant à des relations devenues impossible, rester lié pour l'éternité. Tu as raison, notre embrasement était un inceste. Mais nous ne le savions pas. Tu m'as reproché dans un jour de fièvre et de délire, de n'avoir jamais su te donner les plaisirs de l'amour. J'en ai pleuré, alors. Et maintenant, je suis bien aise qu'il y ait quelque chose de vrai dans ce reproche. Je suis bien aise que ces plaisirs aient été plus austères, plus voilés que ceux que tu retrouveras ailleurs. Au moins, tu ne te souviendras pas de moi dans les bras des autres femmes. Mais quand tu seras seule, quand tu auras besoin de prier et de pleurer, tu penseras à ton Georges, à ton vrai camarade, à ton infirmière, à ton ami, à quelque chose de mieux que tout cela. Car le sentiment qui nous unit s'est formé de tant de choses qu'il ne se peut comparer à aucun autre. Le monde n'y comprendra jamais rien. Tant mieux. Nous nous aimerons et nous nous moquerons de lui.
Et nous, on ne se moquera pas de cet amour hors du commun, capable de prendre de multiples visages. À bientôt pour une autre lettre d'amour.
Nous vous proposons d'écouter la lecture de la lettre que George Sand écrivit le 12 mai 1834 à Alfred de Musset. Alfred de Musset est un jeune homme de 24 ans. Il n'est pas encore bibliothécaire du ministère de l'Intérieur, mais il a tout de même déjà fait paraître à quoi rêvent les jeunes filles et comte d'Espagne et d'Italie. Il ne sera élu membre de l'Académie française qu'en 1852, soit 5 ans avant sa mort. Lorsque George Sand envoie cette lettre à Musset, elle est à Venise avec son nouvel amant Pierre Pagello, qui s'occupe des éditions de ses livres. Et dans cette lettre, George Sand évoque ses amours passés avec Alfred de Musset, se montre aussi à l'égard de sa fille une mère très sensible et se confirme être une femme libre et indépendante, soucieuse du cours et du suivi de ses affaires, dans l'optique de ne jamais dépendre financièrement d'un homme, ce qui était une attitude plutôt pionnière et rare à cette époque. George Sand se trouve donc à Venise, nous sommes le 12 mai 1834. 15 jours auparavant, Alfred de Musset lui demande dans une lettre « Ces 3 lettres que j'ai reçues, est-ce le dernier serment de main de la maîtresse qui me quitte ou le premier de l'ami qui me reste ?» George Sand lui répond
« Non, mon enfant chéri, ces 3 lettres ne sont pas le dernier serment de main de l'amante qui te quitte, c'est l'embrassement du frère qui te reste. Ce sentiment-là est trop beau, trop pur et trop doux pour que j'éprouve jamais le besoin d'en finir avec lui. Es-tu sûr, toi, mon petit, de n'être jamais forcé de le rompre ? Un nouvel amour ne te l'imposera-t-il pas comme une condition ? Que mon souvenir n'empoisonne aucune des jouissances de ta vie. Mais ne laisse pas ces jouissances détruire et mépriser mon souvenir. Sois heureux, sois aimé. Comment ne le serais-tu pas? Mais garde-moi dans un petit coin secret de ton cœur et descends-y dans tes jours de tristesse pour y trouver une consolation ou un encouragement. Tu ne parles pas de ta santé. Cependant, tu me dis que l'air du printemps et l'odeur des lilas entrent dans ta chambre par bouffées et fait bondir ton cœur d'amour et de jeunesse. Cela est un signe de santé et de force, le plus doux certainement que la nature nous donne. Aime donc, mon Alfred, aime pour tout de bon. Aime une femme jeune, belle, et qui n'est pas encore aimée, pas encore souffert. Ménage-la, et ne la fais pas souffrir. Le cœur d'une femme est une chose si délicate, quand ce n'est pas un glaçon ou une pierre. Je crois qu'il n'y a guère de milieu et qu'il n'y en a pas non plus dans ta manière d'aimer et d'estimer. C'est en vain que tu cherches à te retrancher derrière la méfiance ou que tu crois te mettre à l'abri par la légèreté de l'enfance. Ton âme est faite pour aimer ardemment ou pour se dessécher tout de fait. Je ne peux pas croire qu'avec tant de sève et de jeunesse, tu puisses tomber dans l'auguste permanence. Tu en sortirais à chaque instant et tu reporterais malgré toi sur des objets indignes de toi la riche effusion de ton amour. Tu l'as dit 100 fois et tu as beau t'en dédire, rien n'a effacé cette sentence-là. Il n'y a au monde que l'amour qui soit quelque chose. Peut-être est-ce une faculté divine qui se perd et qui se retrouve, qu'il faut cultiver ou qu'il faut acheter par des souffrances cruelles, par des expériences douloureuses. Peut-être m'as-tu aimé avec peine, pour aimer une autre avec abandon. Peut-être celle qui viendra t'aimera-t-elle moins que moi, et peut-être sera-t-elle plus heureuse et plus aimée. Il y a de tels mystères dans ces choses, et Dieu nous pousse dans des voies si neuves et si imprévues. Laisse-toi faire, ne lui résiste pas. Il n'abandonne pas ses privilégiés. Il les prend par la main, il les place au milieu des écueils où ils doivent apprendre à vivre pour les faire asseoir ensuite au banquet où ils doivent se reposer. Vois, mon enfant, voilà que mon âme se calme, que l'espérance me vient. Mon imagination se meurt et ne s'attache plus qu'à des fictions littéraires. Elle abandonne son rôle dans la vie réelle et ne m'entraîne plus au-delà de la prudence et du raisonnable. Mon cœur reste encore. Il restera toujours sensible et irritable, prêt à saigner abondamment au moindre coup d'épingle. Cette sensibilité a encore bien quelque chose d'exagéré, de maladif, qui ne guérira pas en un seul jour. Mais je vois aussi la main de Dieu qui s'incline vers moi et qui m'appelle vers une existence durable et calme. Tous les vrais biens, je les ai à ma disposition. Je m'étais habituée à l'enthousiasme, et il me manque quelquefois. Mais quand l'accès de spleen est passé, je m'applaudis d'avoir appris à aimer les yeux ouverts. Un grand point pour hâter ma guérison, c'est que je puis cacher mes vieux restes de souffrance. Je n'ai pas affaire à des yeux aussi pénétrants que les tiens et je puis faire ma figure d'oiseau malade sans qu'on s'en aperçoive. Si on me soupçonne un peu de tristesse, je me justifie avec une douleur de tête ou un corps aux pieds. On ne m'a pas vue insouciante et folle, on ne connaît pas tous les recoins de mon caractère, on n'en voit que les lignes principales. Cela est bien, n'est-ce pas? Et puis ici, je ne suis pas Madame Sand. Ce brave Pierre Pagello n'a pas lu Leïla et je crois bien qu'il n'y comprendrait goutte. Il n'est pas en méfiance contre ces aberrations de nos têtes de poètes. Il me traite comme une femme de 20 ans et il me couronne d'étoiles comme une âme vierge. Je ne dis rien pour détruire ou pour entretenir cette erreur. Je me laisse régénérer par cette affection douce et honnête. Pour la première fois de ma vie, j'aime sans passion. Tu n'es pas encore arrivé là, toi. Peut-être marcheras-tu en sens contraire, peut-être ton dernier amour sera-t-il le plus romanesque et le plus jeune, mais ton cœur, mais ton bon cœur, ne le tue pas, je t'en prie, qu'il se mette tout entier ou en partie dans toutes les amours de ta vie, mais qu'il y joue toujours son rôle noble, afin qu'un jour tu puisses regarder en arrière et dire comme moi, j'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. J'ai essayé ce rôle dans les instants de solitude et de dégoût, mais c'était pour me consoler d'être seule. Et quand j'étais deux, je m'abandonnais comme un enfant, je redevenais bête et bon, comme l'amour qui veut qu'on soit. Toutes tes lettres sont bonnes et tendres, mon cher Alfred. La dernière est encore meilleure que les autres. Ne t'accuse de rien, n'aie pas de remords. Si tu ne peux surmonter certaines répugnances, certaines tristesses, ne hasarde rien qui te fasse souffrir. Tu as assez souffert pour moi. Ne vois pas mon fils si cela te fait mal. Si tu le vois, dis-lui qu'il ne m'a pas écrit depuis plus de 2 mois et que cela me fait beaucoup de peine. Je suis triste de ne pas voir ma fille. Et à présent que j'ai fixé que je ne devais pas la voir avant le mois d'août, je pense à elle jour et nuit, avec une impatience et une soif incroyables. Qu'est-ce que c'est que cet amour des mères? C'est encore une chose mystérieuse pour moi, sollicitude, inquiétude, 100 fois plus vive que dans l'amour d'une amante, et pourtant moins de joie et de transport dans la possession. Absence qui se perçoit guère dans les premiers jours, et qui devient cruelle et ardente comme la fièvre à mesure qu'elle se prolonge. Mon oiseau est mort, j'ai pleuré, et Pagello s'est mis à rire. Je me suis mise en colère, et il s'est mis à pleurer, alors je me suis mise à rire. Ne voilà-t-il pas une belle histoire? J'attends qu'il m'arrive quelques sous pour acheter une certaine tourterelle dont je suis éprise. Je ne me porte pas très bien, l'air de Venise est éminemment coliqueux et je vis dans des douleurs d'entrailles continuelles. J'ai été très occupée d'arranger notre petite maison, de coudre des rideaux, de planter des clous, de couvrir des chaises. Voici les petits objets que je te prie de m'envoyer. 12 paires de gants glacés, 2 paires de souliers de satin noir et 2 paires de maroquins noirs chez Michel, au coin de la rue du Helder et du boulevard. Tu lui diras de les faire un peu plus larges que ma mesure. J'ai les pieds enflés et le maroquin de Venise est dur comme du buffle. 1/4 de patchouli chez le Blanc, rue Sainte-Anne, en face du numéro 50. Ne te fais pas attraper. Cela vaut 2 francs le quart. Marquis le vend 6 francs. Le cahier de nos romances espagnoles que Bouquaran prendra chez Poltre et te portera. Quelques cahiers de beaux papiers à lettres. Il est impossible d'en trouver ici. 1 paquet de journaux liés avec un cordon qui se trouve dans une de mes armoires de boules et que tu diras à Bouquaran de chercher. Ce sont les journaux qui ont parlé avantageusement d'Indiana et de Valentine. Pagello est en marché pour en vendre une traduction qu'il veut faire et il espère en tirer le double s'il peut présenter à l'éditeur des journaux favorables. N'oublie pas de joindre au livre que je t'ai demandé la marquise Aldo le Rimeur et mettez-la, parce qu'on demande une opérette pour commencer la publication. Le romantique est fort à la mode ici. Je crois que tes petites comédies en prose feraient rage et cela m'amuserait de nous voir devenir célèbres à Venise. Tu mettras toutes ces choses dans une caisse avec les livres. Tout cela peut voyager ensemble sans inconvénient. Et je te prie de mettre la caisse à la diligence, à l'adresse de Pagello, Farmacia Ancillo, à Venise. Cela suffit et Pagello se charge de tout. Adieu, mon joli petit ange. Écris-moi toujours de ces bonnes lettres qui ferment toutes les plaies que nous nous sommes faites et qui changent en joie présente nos douleurs passées. Je t'embrasse pour moi et pour le docteur.
George Sand répondait ainsi le 12 mai 1834 à Alfred de Musset qu'elle venait de quitter. Notre programme spécial « Femmes en Académie » continue avec l'émission « En habit vert » qui reçoit Claude Dulon-Saint-Denis de l'Académie des sciences morales et politiques.